plus des chroniques récurrentes et de l'interview centrale, Présidence vous propose un nouveau rendez-vous, le Zoom politique, ou comment revenir en quelques minutes sur l'actualité de la campagne présidentielle de ces dernières semaines. Et on commence ce Zoom politique avec le chiffre de la semaine, ou plutôt les chiffres de la semaine, ceux de la délinquance dévoilés par Claude Guéant mardi 17 janvier. Selon le bilan du ministre de l'Intérieur, la délinquance diminue en France de 0,34%, soit un nombre de faits constatés en baisse de 12 000 sur un an. La tendance générale, c'est que pour la 9e année consécutive, la délinquance en 2011 est en baisse en France, a déclaré Claude Guéant. Le ministre de l'Intérieur a notamment insisté sur le chiffre de 0,1% qui correspond à l'infime augmentation des violences physiques aux personnes en 2011 en comparaison à 2012. En effet, depuis 10 ans, les agressions physiques étaient le point noir des chiffres de la délinquance. Elles augmentaient chaque année, mais pour la première fois, en 2011, ce type de violence a donc été quasiment stable. Si la tendance générale est à la baisse, enfin très faiblement, il faut toutefois rentrer dans les détails pour se rendre compte de la complexité des résultats. C'est ainsi, par exemple, que les atteintes aux biens ont baissé de 1,74%, alors que dans le même temps, on a des hausses comme celle du nombre des cambriolages des résidences principales et secondaires avec un bond de 16%. Une augmentation importante du nombre des cambriolages donc, mais que le ministre de l'Intérieur explique par les raids menés par des personnes originaires d'Europe centrale et orientale. Claude Guéant fait donc un singulier amalgame qui ne le grandit pas, certes, entre immigration et délinquance. Raccourci mensonger destiné à draguer outrageusement les électeurs potentiels du Front National, ce que Nathalie Arthaud de Lutte Ouvrière a dénoncé en parlant d'une véritable chasse aux voix du Front National, là où la porte-parole de François Hollande, Najat Vallaud-Belkacem, épinglait le petit couplet xénophobe du ministre de l'Intérieur. La candidate écologiste Eva Joly a fustigé cette avalanche de chiffres où la petite délinquance est mélangée avec le grand banditisme. Plus personne n'est dupe, a affirmé l'ancienne juge d'instruction. Dupe, le terme a aussi été utilisé par le Front National. Les Français ne sont plus dupes et n'accordent plus le moindre crédit à ces exercices de communication mensongers, a dénoncé Marine Le Pen. Comme chaque année, le gouvernement sarkozyste se félicite d'une supposée baisse de la délinquance, et comme chaque année, la réalité est très différente. Également dans le Zoom politique, l'événement de la semaine. Samedi 14 janvier, dans l'après-midi, avait lieu à Lyon une double manifestation. Ou plutôt une manifestation et sa contre-manifestation. D'un côté de la Saône, 200 manifestants d'extrême droite, mobilisés à l'appel de l'élu régional isérois Alexandre Gabriac, et sur l'autre rive, 1000 sympathisants de gauche et d'extrême gauche qui défilaient à l'appel du collectif de vigilance contre l'extrême droite. De nombreuses forces de l'ordre étaient mobilisées pour éviter tout débordement, et les cortèges ne se sont pas croisés. D'ailleurs, ils ne risquaient pas de se croiser puisque tous les ponts de la presqu'île qui traversent la Saône étaient barrés par des herses métalliques gardées par des CRS en nombre, bloquant ainsi toute circulation un samedi après-midi. Alors vous allez peut-être me dire que comme événement de la semaine, j'aurais pu vous parler du bal des candidats à Gandrange, devenu le symbole de la désindustrialisation de la France, puisqu'en effet, François Hollande s'y est rendu mardi 17 janvier, accompagné de Martine Aubry, suivi par Jean-Luc Mélenchon le lendemain. Mais j'assume mon choix. La double manifestation lyonnaise illustre en effet la montée d'un discours nationaliste porté par le Front National, mais également par toute une frange de l'UMP, et même donc par Nicolas Dupont-Aignan et ses 0% dont nous parlait Pauline en début d'émission. Montée d'un discours nationaliste qui trouve un certain écho dans le peuple et qui s'explique dans un contexte de souffrance sociale, de crise économique, d'angoisse face à ce monstre institué qui est devenu la mondialisation, véritable gros mot depuis ces dernières années. Discours nationaliste souvent matiné de xénophobie, comme c'était bien le cas lors de cette manifestation d'un groupuscule d'extrême droite, samedi à Lyon, derrière une banderole, « Afghanistan, honneur à ceux qui ont été tués et honte à ceux qui les ont fait tomber », les militants ont marché, vêtus de noir, portant des croix blanches, dans une atmosphère très joyeuse donc, scandant « ni droite, ni gauche, nationaliste ou bleu-blanc-rouge, la France aux Français. Mais dans le cortège du groupuscule d'extrême droite, nulle mention du Front National, qui avait d'ailleurs exclu Alexandre Gabriac, élu régional à l'origine de cette initiative. Pas étonnant. La force du Front National version Marine Le Pen, c'est d'assumer le discours nationaliste et d'abandonner le discours xénophobe. C'est de se faire passer pour un parti politique comme les autres, voire même pour un parti de gouvernement dont la candidate est pour l'instant créditée, rappelons-le, dans les sondages, entre 16 et 21%. Alors qu'on le sait, les sondages sous-estiment certainement encore le vote Front National en France. Bref, la double manifestation lyonnaise montre que le Front National version Marine Le Pen est un parti politique particulièrement redoutable. Dans le zoom politique, l'expression de la semaine, c'est triple A. Nous ne pouvions pas y échapper auparavant, mais depuis que l'agence de notation Standard & Poor's a dégradé la note de la France, la faisant passer du triple A à AA+, il faudrait être exilé au Groenland pour ne pas en avoir entendu parler. La perte du triple A a en effet suscité de nombreuses réactions. Nicolas Sarkozy a dédramatisé en début de semaine dernière à Madrid les effets de cette perte pour l'économie française, tout comme François Baroin, ministre de l'économie, l'avait fait sur le plateau du JT de France 2 le soir de l'annonce de la perte des trois petites lettres salvatrices. Trois petites lettres que personne ne connaissait avant que Nicolas Sarkozy en fasse l'année dernière son cheval de bataille, son trophée dont il était si fier, patatras. Si la posture du sauveur, du super-héros, lui avait permis de renouer avec les Français, le fait que la France ait chuté symboliquement oblige Nicolas Sarkozy à un repositionnement. Il va essayer de transformer son échec objectif, en déplaçant les lignes, en mettant en avant ses qualités d'énergie et de courage. La perte du triple A a suscité d'autres réactions à gauche comme à droite dans l'opposition, de Laurent Fabius pour le Parti Socialiste, qui a évoqué la « dégradation Sarkozy », jusqu'à Dominique de Villepin qui a déclaré « la dégradation de la dette signifie clairement l'échec du quinquennat ». Mais c'est surtout François Bayrou qui espère profiter d'une campagne sur le terrain de la dette et du déficit public, lui qui en faisait déjà sa priorité lors de la dernière présidentielle en disant « nanana, j'avais raison ». Cela permet de vérifier deux choses, déclarait-il, dont j'avais pris la responsabilité d'avertir les Français depuis 10 ans. D'abord que la politique d'insouciance conduite depuis des années ne pouvait manquer de nous conduire à de graves risques. Ensuite, que cette crise est pour une grande part une crise nationale. C'est ce que disait François Bayrou. Mais si tout le monde s'est ému, quand Standard & Poor's a dégradé la note de la France, si tout le monde a crié au scandale, au malheur, personne ne s'est réjoui quand une autre agence de notation, Moody's, a maintenu, elle, de son côté, le triple A français. Comme quoi, tout est affaire de polémique. Et on termine avec l'alerte rouge de la semaine, vous aurez reconnu le jingle, et c'est une déclaration de Ségolène Royal sur France Info, le lundi 16 janvier, qui fait retentir l'alerte dans le studio. Elle a déclaré, en effet, « Sur 630 milliards d'euros d'augmentation de la dette, il y a 109 milliards seulement qui sont dus à la crise, tout le reste est dû à la mauvaise politique de la droite, 520 milliards d'euros de dépenses inconsidérées. » Avec la perte du triple A, l'opposition a trouvé un bon angle d'attaque contre le président, un si bon angle qu'on n'hésite même pas à cumuler les contre-vérités à propos des chiffres, histoire d'en rajouter un peu tant qu'on y est, quitte à exagérer à outrance. Ségolène Royal laisse entendre que les 520 milliards de dettes dites structurelles sont dues, sinon au quinquennat de Nicolas Sarkozy seul, au moins à ce dernier, plus celui de Jacques Chirac, soit à 10 ans de gouvernance absolue de la droite. Et effectivement, 520 milliards de dettes en 10 ans, voire pire, 520 milliards en 5 ans, ça fait passer la droite pour de sacrés irresponsables. Et dire que d'habitude, les dépensiers, c'est la gauche. Sauf que Ségolène Royal, comme nombre de dirigeants de gauche depuis l'annonce de la perte du triple A, fait ici un raccourci qui confine à la malhonnêteté. En effet, si les derniers rapports de la Cour des comptes évaluent bien la part du déficit lié à la crise à 109 milliards seulement, laissons donc bien 520 milliards de dettes générées par les politiques menées en France, ce n'est pas sur 10 ans de gouvernante de droite que celle-ci a été contractée, mais sur 30 ans, c'est-à-dire les années Mitterrand et Jospin comprises. Et ça, étrangement, la gauche n'en parle pas. Il est en effet plus facile de rejeter toute la faute sur Sarkozy. Mais bon, Nicolas Sarkozy n'est pas tout blanc dans cette affaire. La Cour des comptes souligne en effet que la part du déficit structurel creusé par les politiques de Nicolas Sarkozy sous son mandat est d'environ 20%, c'est-à-dire environ 126 milliards d'euros, donc plus que le déficit lié à la crise, 109 milliards, je le rappelle, 126 milliards d'euros liés à Nicolas Sarkozy, c'est quand même assez énorme. Alors, Madame Royale, la prochaine fois, pour critiquer la mauvaise gestion budgétaire de Nicolas Sarkozy, ayez l'obligeance de prendre les bons chiffres pour ne pas mentir aux Français. Baudelaire disait « Le rire est satanique, il est donc profondément humain ». Le plus humain de la bande, le diablotin de présidence, Antoine, a aiguisé sa fourche pour nous faire rire avec son billet d'humour et d'humeur.
Et oui, ça y est, nous sommes à 3 mois de l'élection présidentielle et dans moins de 100 jours, nous serons tous devant notre télé, rongés de stress mais avec l'intime conviction que nous sommes devant l'histoire et que plus tard, quand des rides auront creusé notre visage et nos cheveux blanchi notre paraître, nous dirons à nos enfants « J'y étais, je l'ai vécu et plus rien n'a été comme avant ». Mais non, je déconne, vous m'avez pris pour un bisounours ? C'est fini les promesses, les bons mots et les grands soirs. Avant, la politique était de la politique. Mais maintenant, on a le choix entre Hollande, monsieur, je serai impuissant devant les marchés financiers, alors je ne fais pas de promesses. Sarkozy, ou plutôt, monsieur, les marchés financiers sont mes amis, mais chut. Et Marine Le Pen, c'est-à-dire, madame, les marchés financiers sont mes ennemis et je les déteste au même titre que la République, la démocratie, la tolérance, le pluralisme, et j'en passe. Et le seul, mesdames et messieurs, qui pourrait se rebeller contre le système et changer la donne en bon rebelle qu'il est, qui pourrait changer la donne de cette campagne molle, de ce bain tiède ou de ces discours sans goût, c'est François Bayrou. Vous savez, c'est monsieur, je suis au centre de tous et au milieu de rien. C'est dire à quel point cette campagne de 2012 est mortellement ennuyeuse, on en est réduit à attendre qu'un candidat fade pimente un peu cette campagne insipide. Eh oui, c'est comme si 2012 vengeait 2007. C'est comme s'il existait une loi arithmétique stipulant qu'une campagne présidentielle contient des promesses en nombre inversement proportionnel à la campagne présidentielle précédente. Parce qu'en 2007, Nicolas Sarkozy avait eu la main leste. Hein. Il avait promis la fin de l'insécurité, le plein emploi et la hausse du pouvoir d'achat sans augmenter, bien entendu, l'âge du départ à la retraite. Oui. En fait, c'est un peu comme si 2007 avait été une gigantesque soirée en salle festive avec open bar, Lady Gaga et son lot de joyeux lurons ivres sur le podium faisant l'hélicoptère sous l'œil faussement dégoûté du bureau des élèves qui, comme chacun sait, profite souvent de ce genre de circonstances pour s'adonner à son art favori, le 8e en l'occurrence, la photographie. Bon, d'accord, ça avait été un petit peu beauf 2007, c'est vrai, mais au moins on avait rigolé. Et maintenant, en 2012... Malgré un mal de crâne à vous en arracher la tête, il faut nettoyer la salle festive, ramasser tous les gobelets en plastique, récurer les 2 cm de bière solide qui en tapissent le sol tristement blanc et carrelé, et compter le nombre de bouteilles éparpillées ça et là, sinistrement vides.
Ça sent le vécu. Hein.
Voilà. Suivre la campagne présidentielle de 2012, c'est un peu comme regarder Hollande, Sarkozy, Le Pen et Bayrou ranger la festive sous le regard des marchés financiers qui les noteront selon leur capacité à récurer l'irrécurable. Et je sais pas vous, mais moi je trouve ça d'un ennui mortel. J'ai parfois l'impression, en suivant cette campagne, que ma vie est devenue un gigantesque sablier dont chaque grain de sable est contraint de regarder un épisode de l'inspecteur Derrick avant de tomber au ralenti. Ou alors qu'après une lutte acharnée avec Clermont-Ferrand et Angoulême, Limoges soit choisie comme nouvelle capitale d'une France, hélas, toujours autant centralisée. Heureusement quand même qu'il y a les autres. Jean-Luc Mélenchon, lui, est un peu plus fun quand même. Entre socialisme et insulte, c'est toujours rafraîchissant d'apprendre dans le gala qu'il rêve secrètement d'écrire un roman d'amour et qu'il a selon lui 1,5 kg à perdre. Fascinant. C'est quand même triste de devoir aller quasiment à l'extrême gauche pour retrouver la funny people attitude de Sarkozy en 2007. Parce que c'est pas Eva Joly qui va aller avouer qu'elle rêve d'être le futur Marc Lévy au féminin. Hein. Et puis Hervé Morin, c'est vrai qu'il est drôle, mais c'est plutôt à ses dépens et le rire est quand même un petit peu moins franc. Bon, vous allez dire que j'exagère. Et vous avez raison, il y a quand même un certain suspense. Car l'écart se réduisant entre Hollande, Sarkozy, Le Pen et Bayrou, l'affiche du second tour est quand même assez incertaine. Sarkozy pourrait passer devant Hollande, Bayrou pourrait finalement devancer Sarkozy, et Marine Le Pen pourrait nous faire le coup de son papa au soir du 21 avril. Mais finalement, parmi ces quatre candidats de droite, on a seulement le choix entre l'austérité et l'autoritarisme. Et voilà, dans moins de 100 jours, nous serons tous devant notre télé, rongés de stress, mais avec la conviction que nous sommes devant l'histoire et que plus tard, quand des rides auront creusé notre visage et nos cheveux blanchi notre paraître, nous dirons à nos enfants « J'y étais, je l'ai vécu, et ça n'a pas changé grand-chose ».
Merci Antoine. Alors notre émission touche à sa fin, merci de l'avoir suivi. Pour réagir et suivre l'actualité de votre émission préférée, vous pouvez ajouter « Présidence » parmi vos amis sur Facebook. Merci à Caroline, Xavier et Fabien à la technique, sans qui cette émission n'aurait pas pu se faire. Et depuis une semaine, Transistor vous offre Libération tous les jours sur le site Descartes pour le moment, dans le hall principal et en cafette, alors profitez-en. La semaine prochaine, nous recevrons Christian Jacob, député maire de Provins, plusieurs fois ministre sous le quinquennat de Jacques Chirac et aujourd'hui président du groupe UMP à l'Assemblée nationale. Alors à très vite sur les ondes de Transistor et surtout, d'ici là, n'oubliez pas, gardez l'esprit critique.